Vous écoutez RFI, il est 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Toute l'actualité africaine avec Vincent Dublanche. Bonjour Vincent.
Bonjour Marion, bonjour tout le monde.
À la une, le décès d'un policier en service fait grand bruit en République démocratique du Congo.
Le brigadier Fiston Kabeya est mort quelques jours après une altercation avec l'escorte de la première ministre et puis son arrestation. Une enquête est ouverte par le parquet militaire. Judith Souminois exprime son profond regret. À la une également, le Niger, la FIDH, critique la suppression des partis politiques et la nomination du général Tiani en tant que président pour au moins les 5 prochaines années. On va tenter aussi de comprendre ce que signifie le retrait de Niamey de la force armée anti-jihadiste dans le lac Tchad. On va parler et décrypter le rapprochement en cours entre la France et l'Algérie. Et puis cet entretien rare sur RFI, une voix en exil, celle du Malien Amadou Ndiko, détenu plusieurs mois l'an dernier par les services de sécurité. Rendez-vous dans un petit quart d'heure. Ce sera juste après le journal des sports et la liste des 12 finalistes du prix RFI France 24, Marc-Vivien Fouet, dévoilée. C'est une affaire qui suscite une certaine émotion en République démocratique du Congo. La mort violente d'un policier affecté à la circulation sur l'un des grands boulevards du quartier d'affaires de la Gombe à Kinshasa. Le brigadier Fiston Kabeya a d'abord été pris à partie par l'escorte de la première ministre. C'était mardi, il y a une semaine. Il a ensuite passé plusieurs jours au parquet militaire et de là, il a été transféré vers un hôpital dimanche. Il y est décédé. Une enquête est ouverte, je vous le disais. C'est ce qu'a dit notamment la première ministre Judith Souminois, qui exprime son profond regret suite à la mort, je cite, d'un homme dévoué à servir notre pays. Retour sur l'affaire avec Pascal Moulégoua.
La scène est relatée par un policier témoin de l'événement. La vidéo est devenue virale. Mardi dernier, les bouchons assaillent le boulevard Mondjiba. Le cortège de la première ministre prend les contresens interdits par les codes de la route. Ce jour-là, les policiers de la route frayent les chemins pour les cortèges après une altercation verbale entre eux et les membres du cortège de la chef du gouvernement. Quelques minutes après, raconte son collègue, une partie du cortège revient, embarque les brigadiers Kabeya Fiston, lui roue des coups, puis l'amène. La police, sans plus de détails, a confirmé les décès dans un communiqué. Le ministre de la Justice s'en est mêlé. Le procureur de l'armée a été instruit d'engager des poursuites en flagrance contre les auteurs. La mort de ces policiers a provoqué un tollé, certains exigeant des sanctions contre la chef du gouvernement. D'autres ont rappelé les tensions sur les routes de Kinshasa entre les policiers et la garde rapprochée des officiels récidivistes. Les cas de violence sont en tout cas légion, mais ne conduisent pas souvent à la mort, nous a déclaré un des hauts dirigeants de la police. Pascal Moulégoua, Kinshasa, RFI.
Et le ministre congolais de la Justice qui s'est aussi exprimé sur le dialogue en cours dans la capitale pour la formation d'un hypothétique gouvernement d'union nationale en RDC. Ça fait maintenant 10 jours que ces discussions ont débuté, menées par le conseiller sécurité du président Félix Tshisekedi. Il a reçu hier des membres de la société civile, de la majorité et donc le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui n'est pas convaincu au vu des tractations en cours qui ressemblent selon lui à des marchandages de postes.
Pour nous, il faut d'abord écarter la problématique du partage de postes parce que le pays est en danger. Il est plutôt nécessaire que nous nous concentrions sur des solutions structurelles qui nous permettent de sortir de cette situation de crise. Nous avons suggéré en lieu et place du gouvernement d'union nationale qui soit plutôt mis en place un gouvernement d'ouverture. Il peut y avoir des compatriotes talentueux qui puissent servir la République en cette période de crise et qu'il n'est pas question de tourner autour des critères comme celui lié au poids politique parce que nous devons régler une situation inédite. C'est la guerre qui sévit dans la partie est. Le plus important, c'est maintenir l'architecture gouvernementale actuelle avec la première ministre actuelle, ajouter quelques membres pour ne pas casser l'élan du travail qui se fait déjà. Sinon, nous allons passer de l'éternel recommencement à l'éternel recommencement.
Félix Tshisekedi, qui a signé également cette nuit une ordonnance portant mesures individuelles de grâce en faveur de Marcel Malanga Malou, ce ressortissant américain condamné à mort dans l'affaire du coup d'État manqué du 19 mai 2024 et de l'attaque de la résidence quinoise de Vital Kamerhe, à l'époque vice-premier ministre. Selon l'ordonnance présidentielle qui a été rendue publique ce mercredi, la peine de mort infligée à Marcel Malanga est commuée en prison à perpétuité. Marcel Malanga, c'est le fils de Christian Malanga qui est présenté comme le meneur du groupe, accusé d'avoir tenté de renverser les institutions. Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale, il est 6h35, tout pile à Niamey. où le gouvernement annonce une vague de libération. On l'a appris ces dernières heures. D'après nos informations, elles ne sont pas encore effectives, mais elles pourraient avoir lieu dans la journée. Une cinquantaine de personnes sont concernées. Il y a notamment d'anciens ministres sous Mohamed Bazoum. Mahaman Sani Issoufou, par exemple, le fils de l'ex-président Mahamadou Issoufou et ex-titulaire du portefeuille stratégique du pétrole. Kala Moutari, aussi l'ancien ministre de la Défense, entre autres, concerné aussi le journaliste Ousmane Toudou, ainsi que des militaires condamnés pour des tentatives de putsch sur la dernière décennie, dont l'ex-chef d'état-major nigérien Salou Souleymane. La semaine dernière, lors de son discours à la Nation, le général Tiani avait parlé pardon et réconciliation. Ce mercredi 26 mars, il y a une semaine donc, il était du même coup fait président de la République pour 5 ans au moins. Une charte était promulguée dans la foulée, les partis politiques dissous. Pour la Fédération internationale pour les droits humains, le Niger s'enfonce dans l'autoritarisme. C'est ce que dit en tout cas Maître Drissa Traoré. Il est le secrétaire général de l'AFDH.
Cette décision consistant à dissoudre les partis politiques vient achever le musellement des partis politiques puisque elles avaient déjà suspendu ces partis politiques-là. On a abouti maintenant à l'imposition d'un pouvoir qui n'a plus de limite puisqu'il bénéficie, le chef de la junte, de 5 ans qu'il pourrait renouveler éventuellement. C'est la même mise sur tous les organes du pouvoir et il n'y a plus de possibilité de parler d'une autre voix que celle des militaires. On a déjà vu des acteurs de la société civile comme Tchangari en prison parce que ce sont des personnes qui osaient parler. Aujourd'hui, c'est la fermeture, si je peux utiliser ces termes-là, de tout l'espace civique et démocratique du Niger. Ça montre tout simplement qu'on a un pouvoir qui s'impose et qui impose à l'ensemble de la population nigérienne.
Drissa Traoré, le Niger et cette nouvelle attaque qui a visé l'oléoduc qui transporte le pétrole brut depuis les champs d'Agadem dans le nord-est vers le port de Semepoji au Bénin. Elle s'est produite, cette attaque, dans la nuit de lundi à mardi près de Kouliki. C'est dans la région de Tawa, au sud de Tawa en fait, tout près de la frontière avec le Nigeria et l'état de Sokoto, le pipeline, comme on dit en bon français, est régulièrement attaqué depuis quelques mois. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie officiellement le retrait de Niamey de la force multinationale mixte dans le bassin du lac Tchad, force composée de 4 pays, Nigeria, Tchad, Cameroun et Niger. Elle a été créée dans les années 90, elle a été relancée en 2015, il y a 10 ans, pour lutter contre les groupes djihadistes. Quelles conséquences avec ce retrait nigérien annoncé samedi? Quelle réalité aussi pour cette force aujourd'hui? Élément de réponse avec Magali Lagrange.
La force multinationale mixte est en train de mourir lentement, selon le sociologue Gondo Ladiba. L'enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena rappelle que le Tchad avait lui-même menacé d'en partir en novembre, dénonçant une absence de mutualisation des efforts. La force multinationale mixte est organisée en 4 secteurs d'opération, un dans chaque pays membre. Chacun opère dans sa zone. Des opérations régionales sont aussi organisées conjointement, comme l'an dernier pour traquer les terroristes sur les îles du lac Tchad, opération à laquelle le Niger n'a pas participé. Niamey était en retrait depuis le coup d'État. Son départ n'est pas une surprise, explique Remadji Oinati. Le chercheur à l'ISS évoque des conséquences en termes de partage de renseignements et de droits de poursuite. En plus des difficultés conjoncturelles, la FMM souffre de problèmes de fond, selon Raoul Soumo Tayo, lui aussi chercheur à l'ISS, à commencer par la question du financement, la baisse des fonds européens qui se fait sentir sur le terrain et des divergences de priorités entre les États membres. Pour le sociologue Gondo Ladiba, la FMM risque de disparaître, comme le G5 Sahel avant elle. Ces mécanismes de sécurité, conclut-il, n'arrivent pas à fonctionner efficacement, notamment à cause d'un manque de confiance entre les partenaires.
En bref, en Guinée, le pouvoir de transition annonce la date du référendum constitutionnel. Ce sera le 21 septembre, décret présidentiel du général Mamadi Doumbouya, lu hier soir à la télévision publique à Conakry. La Guinée où l'ONU, ainsi que plusieurs organisations non gouvernementales de défense des droits humains, dénoncent la grâce accordée par le général putschiste à l'ancien putschiste Moussa Dadis Camara, condamné à 20 ans de prison. Au procès du massacre et des viols du 28 septembre 2009 au grand stade de Conakry. Dénonciation également au sein d'une partie de la classe politique. À ce propos, on entendra quelques prises de parole dans le prochain journal Afrique dans 1 heure sur RFI. Les avocats de la famille d'Ali Bongo au Gabon dénoncent le silence de la France et sa complaisance vis-à-vis des tortures subies selon eux par l'ex-première dame du Gabon, Sylvia, et son fils Noureddine. Ce sont des ressortissants français. Les autorités ont le devoir et l'obligation d'assurer leurs droits, a dit l'une des avocates de la famille depuis Paris hier. La France, dont la relation avec l'Algérie est à nouveau au réchauffement. Le président Abdelmadjid Tebboune avait semblé ouvrir la porte il y a 10 jours dans une interview. Lundi soir, il a eu au téléphone son homologue Emmanuel Macron. Dans la foulée, communiqué commun publié pour évoquer des nouvelles relations diplomatiques, économiques, migratoires, sécuritaires. Cette reprise des échanges doit s'engager à Alger prochainement, Guillaume Thibault.
Ne pas tomber dans le brouhaha politique, c'était le souhait déclaré d'Abdelmadjid Tebboune. Et le chef de l'État a dû être rassuré dès le début de l'année, car depuis janvier, la cellule diplomatique de l'Élysée s'est rendue 3 fois à Alger pour poser les nouvelles bases des relations entre les deux pays. C'est d'ailleurs la dernière visite, il y a quelques jours, indique une source diplomatique, qui a débouché sur l'entretien téléphonique lundi soir entre les deux présidents, qui ont donc parlé de refondation avec une volonté de résultat, notamment sur les questions migratoires. Première étape annoncée, la réunion qui doit se tenir rapidement entre les 18 consuls algériens basés en France et les préfets pour rétablir au plus vite une coopération migratoire plus fluide, indique Paris. Autre point visiblement crucial, la relance immédiate de la coopération sécuritaire, des échanges entre services, notamment sur les problématiques terroristes en Afrique de l'Ouest. Pour marquer cette volonté diplomatique, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est annoncé à Alger ce dimanche. Son homologue de la justice, Gérald Darmanin, devrait également se rendre rapidement en Algérie.
À Radio France Internationale, il est 7h41 à Paris et à Harare, la capitale du Zimbabwe, où ce sont quasiment 100 personnes que la police a arrêtées lundi. Elles manifestaient contre le président Emmerson Mnangagwa. Les protestataires étaient peu nombreux, certes, mais ils battaient le pavé, et c'est à noter, à l'appel d'un ancien du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Qu'est-ce que cela dit de la situation politique dans le pays? Décryptage RFI, Alexandra Branjon.
À peine 200 personnes se sont rassemblées lundi sur la place de la Liberté à Harare. Elles ont été rapidement dispersées par les forces de l'ordre, déployées en force dans le centre-ville. L'appel à la mobilisation avait été lancé par Blaise Geza, un ancien combattant de la guerre d'indépendance et ancien cadre du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Signe, selon plusieurs analystes, des tensions grandissantes au sein de cette formation politique. Depuis plusieurs mois, une faction de la ZANU-PF pousse pour un changement de constitution qui permettrait au président Emmerson Mnangagwa de se représenter pour un troisième mandat lors du scrutin de 2028. Un projet qui nourrit la colère d'une partie de la population. Le chef de l'État est âgé de 82 ans et le pays est englué dans une grave crise économique imputée à la corruption et à la mauvaise gestion du gouvernement. Certains craignent que cette nouvelle contestation au sein de son propre parti ne serve de prétexte au chef de l'État pour déclarer l'état d'urgence et suspendre la constitution.
Et signe de la tension lundi dans le pays, la police était également déployée dans la seconde ville du Zimbabwe, Bulawayo. Les entreprises, les administrations étaient fermées. Marion